Et nous sommes le mardi 4 octobre 2016. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 3 ans jour pour jour après le terrible naufrage de Lampedusa, plus de 6000 migrants ont été secourus au large de la Libye hier. C'est l'une des plus grosses opérations de sauvetage de l'année à la faveur du beau temps. Une route périlleuse, 11 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe hier.
10 pays accueillent la moitié des déplacés dans le monde et les plus riches sont loin d'être les plus solidaires. C'est le rapport accablant d'Amnesty International publié ce matin.
L'actualité en France, c'est le plan de sauvetage par l'État de l'usine Alstom de Belfort. Les salariés sont partagés entre l'espoir et la prudence, vous les entendrez dans ce journal. Mais au nom de qui l'État intervient dans ce dossier ? Analyse de Marie Viennot à partir de 7h13 dans le billet économique.
Et le sujet du jour, les primaires de la droite se gagneront-elles à droite ou à gauche ? La question du jour, pourquoi le pape a-t-il à nouveau évoqué ce dimanche la théorie du genre ?
Elle avait été enlevée le 1er décembre 2015 à Sanaa, la capitale yéménite, sous contrôle des rebelles chiites houthis. Après 10 mois de captivité, l'otage franco-tunisienne Nouran Ouass a été libérée hier soir et transférée à Mascate dans le sultanat d'Oman. Le sultanat qui aurait pu jouer un rôle clé dans sa libération, le président François Hollande a d'ailleurs exprimé toute sa gratitude au sultan d'Oman. Soulagement également du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, pour laquelle la jeune femme travaillait. Hervé Toutain.
La libération de Nouran Ouass est le fruit de très longues négociations tenues secrètes entre de multiples intervenants. Au début du mois dernier, le gouvernement tunisien avait juste affirmé laconique qu'elle allait bien. Auparavant, dans une vidéo, Nouran Ouass s'était notamment adressé à François Hollande pour que le président l'aide à recouvrer la liberté. Dès l'enlèvement de la jeune femme dans un Yémen en guerre, le CICR a mis en place une task force chargée d'obtenir la libération de la jeune femme. Cette cellule a fonctionné 24 heures sur 24 jusqu'à le heureux dénouement. Frédéric Joly est le porte-parole en France du Comité international de la Croix-Rouge.
Le CICR, qui a tout de même une expérience malheureusement dans ce genre de situation, est parvenu à établir les contacts et à s'appuyer sur toutes les influences possibles, que ce soit les autorités françaises, que ce soit les autorités tunisiennes ou encore les autorités omanaises. Ce qui nous importe aujourd'hui, au-delà du fait que Nouran va retrouver ses proches et sa famille, eh bien, c'est de pouvoir redimensionner l'aide humanitaire au Yémen.
À Oman, Nouran Ouass se repose. Elle devrait retrouver prochainement sa famille et ses proches.
Hervé Toutain pour France Culture. Les États-Unis suspendent leur pourparlers avec la Russie sur un cessez-le-feu en Syrie. L'acte de trop pour Washington, c'est la destruction totale du plus grand hôpital du secteur rebelle d'Alep dans un bombardement aérien hier. Au moins 3 morts et des services de santé inutilisables alors que 250 000 personnes sont toujours prises au piège sous les bombes de Damas et de Moscou depuis bientôt 2 semaines. Tout le monde est à bout de patience avec la Russie, a affirmé le porte-parole de la Maison Blanche. Il n'y a plus rien dont les États-Unis et la Russie puissent parler à propos de la Syrie, a-t-il encore estimé. Une décision que regrette la diplomatie russe. Par ailleurs, toujours en Syrie, un mariage dans le nord-est du pays s'est transformé hier soir en noce de sang. 22 civils tués dans un attentat suicide près d'Assaké, une ville contrôlée par les forces kurdes, ennemis jurés des djihadistes. La guerre en Syrie, mais aussi le chaos en Libye ou encore la pauvreté en Afrique subsaharienne, autant de raisons qui poussent des hommes, des femmes et des enfants à quitter leur pays. Et hier, 11 migrants, dont 2 enfants, sont morts au large de la Libye alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe en empruntant la dangereuse route de la Méditerranée centrale. Et plus de 6000 personnes, 6055 précisément, ont été secourues hier, quasiment toutes récupérées au large de Tripoli. Les migrants étaient entassés à bord de 39 embarcations, des canots pneumatiques, quelques bateaux de pêche et des radeaux, tous surchargés. Beaucoup de mineurs étaient non accompagnés. Des navires militaires italiens et européens ont participé au sauvetage, ainsi que des bateaux humanitaires de SOS Méditerranée, Save the Children, ou encore Médecins sans frontières. Chez MSF, justement, Nicolas Papachrysostomou est coordinateur sur le bateau Dignity One, déployé hier, joint par Adrien Toffolet. Il évoque les raisons de ces départs massifs de ce lundi.
Il y a une raison de base, qui est évidemment l'absence d'une ordre politique stable en Libye. Donc là, les réseaux des trafiquants sont tout à fait ouverts et libres pour faire ce qu'ils veulent faire. Après, quand il y a du mauvais temps, et ils respectent un peu la nature, parce qu'ils savent bien qu'on pourrait avoir des tragédies, mais quand ils peuvent, ils envoient tout le monde à Méditerranée. Et ici, ce n'est pas un jeu. Les bateaux de secours ne sont pas ici pour prétendre d'être des taxis, sinon pour sauver des vies qui auraient été perdues sûrement dans la mer, parce que la politique d'Europe n'est pas une politique d'accueil, sinon une politique de dissuasion.
Une politique européenne de dissuasion envers les migrants, c'est aussi ce que dénonce Amnesty International, mais pas seulement. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG note que la moitié des personnes déplacées dans le monde est accueillie dans 10 pays seulement. 10 pays qui pèsent moins de 2,5% du PIB mondial. Et Amnesty de dénoncer l'égoïsme des pays riches qui ne fait qu'aggraver la crise. Premier pays d'accueil, la Jordanie, 6 millions d'habitants, 2 700 000 réfugiés. Viennent ensuite la Turquie ou encore le Liban. Ce pays qui compte 5 millions d'habitants et qui accueille 1 million de Syriens. Dans le même temps, souligne Amnesty, le Royaume-Uni a lui accueilli moins de 8 000 Syriens depuis 2011. Il existerait pourtant dans cette crise des solutions, selon Jean-François Dubost, responsable du programme Protection des populations chez Amnesty International France.
Nous avons, Amnesty International, mis sur la table deux systèmes. Un système de long terme, il faut prendre en charge les réfugiés les plus vulnérables et sortir des pays dans lesquels ils ont trouvé refuge, qui sont les pays les plus proches des leurs, souvent en conflit ou centre de persécution. 1 million, 2 millions de personnes par an, probablement. Aujourd'hui, il n'y a que 30 États qui se sont engagés à le faire. Nous, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait plus d'États avec un mécanisme contraignant sur la base de critères objectifs. La population, la taille du territoire, le taux de chômage, la richesse nationale, le nombre de réfugiés déjà accueillis, que ces critères-là servent à établir un certain nombre de réfugiés que doivent accueillir chacun des États dans le monde. Bien sûr, pas ceux qui sont des auteurs de violations massives des droits humains, ni ceux qui sont en conflit, mais si on passait de 30 à 60, voire 90 États, déjà on pourrait penser résoudre la situation de ces 2 millions de personnes. C'est quand même rien à l'échelle mondiale. Deuxième système que l'on met en place est lui aussi contraignant, mais vise à répondre à des besoins de court terme. C'est le cas du conflit en Syrie, qui, en quelques mois, a jeté des millions de personnes hors de Syrie. Et en fait, on a vu que la communauté internationale est incapable de répondre à ce besoin de protection-là, soudain. Ce sont les États en première ligne, le Liban, 1 personne sur 5 au Liban est réfugiée, la Jordanie, des États qui n'ont plus la capacité de les accueillir. Donc il faut mettre en place un système où, lorsque les États en première ligne ont atteint leur capacité maximale d'accueil, et bien d'autres États plus riches, dans la limite de 10% de leur capacité d'accueil, accueillent sur leur territoire des réfugiés.
Jean-François Dubost d'Amnesty International France, il répondait à Louis Bel-Enfant. Et c'est pour des discours anti-migrants ou anti-musulmans que le Royaume-Uni est pointé du doigt ce matin. La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance s'inquiète de la progression des discours racistes dans les médias et dans les discours du personnel politique britannique, notamment dans le contexte du référendum sur la fin de l'appartenance à l'Union européenne. Et dans ce contexte post-Brexit, Londres va permettre à ses soldats d'être exemptés du droit humanitaire européen afin d'éviter des poursuites abusives à la suite d'opérations extérieures. C'est ce qu'annonce ce matin la première ministre britannique Theresa May dans un communiqué. Aux États-Unis, on apprend que la police de Los Angeles a tué 2 hommes ce week-end, un adolescent noir et un hispanique, expliquant que le premier était muni d'une arme chargée alors que le second n'avait qu'un faux pistolet. 2 morts qui ont déclenché de nouvelles manifestations. Ces 2 décès portent à 3 le nombre d'hommes tués par des policiers californiens en à peine 5 jours. À 5 semaines de l'élection présidentielle américaine, les mauvaises nouvelles s'amoncellent pour Donald Trump. Le candidat républicain est attaqué sur sa feuille d'impôt, sa fondation personnelle et elle épinglée par la justice à New York. Le procureur général de New York a ordonné à la fondation Trump de cesser immédiatement de lever des fonds dans l'État pour infraction à la législation sur les associations caritatives dans la foulée d'articles accusateurs du Washington Post.
7h09, la suite du journal sur France Culture. Catherine Dutu, les employés d'Alstom à Belfort espèrent être fixés sur leur sort aujourd'hui.
Un plan de sauvetage du site historique du constructeur ferroviaire sera présenté ce matin par le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue. À la clé notamment, une potentielle commande publique de 16 rames TGV et de leurs 32 motrices, mais aussi la transformation du site Alstom de Belfort en centre européen de la maintenance ferroviaire, ce qui représenterait un investissement de 70 millions d'euros. Mais les salariés belfortins attendent des faits concrets, Émilie Pou.
Il a fait partie des 300 salariés qui sont allés à Saint-Ouen la semaine dernière. Christophe est mobilisé depuis le début et il espère un dénouement heureux.
On va aller voir la préfecture, savoir ce qui va se dire. On attend une bonne nouvelle, qu'on soit sauvé et puis ça sera bien. Si on écoute notre Premier ministre, c'est sauvé, mais après, on a toujours le doute quand même.
André Fage, délégué CFE-CGC, reste prudent également et il avertit, il ne se contentera pas de commandes publiques de locomotives.
Les commandes publiques ne sont pas la solution à la pérennité du site parce que dans tous les cas, 32 locomotives, ça représente, allez, on va dire, une grosse année de charge et encore pas de pleine charge. Mais dans tous les cas, c'est pas suffisant. Il faut autre chose. Il faut plus.
Il faut diversifier l'activité. C'est aussi ce que pense Damien Meslot, le maire de Belfort, qui se dit prêt à investir.
Nous attendons d'avoir des investissements pour diversifier la production sur le site industriel de Belfort. Et je l'ai indiqué, notre société d'économie mixte qui s'appelle Tandem est prête à investir pour accompagner ces investissements d'Alstom.
Accompagner notamment la diversification de l'usine en site de maintenance ferroviaire, des autobus électriques pourraient également être produits à Belfort. Cela devrait faire partie des annonces.
Émilie Pou de France Bleu, Belfort-Montbéliard. L'État au secours d'Alstom, mais l'État également au secours des agriculteurs embourbés dans une crise majeure, avec le secteur de l'élevage en grande difficulté, on le sait depuis des années. Les cultures ont, elles, été touchées au printemps dernier par des intempéries catastrophiques. Le ministère de l'Agriculture estime que 80 000 à 100 000 exploitations ont aujourd'hui besoin d'être refinancées, soit près d'une exploitation française sur cinq. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, reçoit aujourd'hui les syndicats des praticiens hospitaliers. Objectif, rendre plus attractif l'hôpital public qui souffre d'une véritable crise des vocations. On y revient dans le journal de 7h30. L'examen du très large projet de loi Égalité et Citoyenneté commence aujourd'hui au Sénat. En commission, les sénateurs ont rajouté une série d'amendements assez techniques. Sous l'argument de lutter contre les abus sur Internet, ils pourraient en fait vider de son sens la loi sur la liberté de la presse, Catherine Pétier.
Avec l'argument de lutter contre les abus sur Internet et de donner un coup de jeune à la loi, les sénateurs pourraient en fait remettre en cause assez fondamentalement la liberté de la presse, et cela en vidant de son sens la loi de juillet 1881 qui la régit. C'est l'alerte lancée par les éditeurs de presse dans un communiqué commun. Ils dénoncent 4 amendements à la loi Égalité et Citoyenneté. À leur origine, il y a le rapport d'information de 2 sénateurs et l'objectif avancé de sanctionner les injures et les diffamations diffusées anonymement sur le web. 2 points cristallise les inquiétudes. D'abord, la possibilité pour le juge de requalifier un délit. Aujourd'hui, la loi sur la liberté de la presse prévoit une liste très précise d'infractions et quelqu'un qui s'estime par exemple diffamé ou injurié doit dire en quoi et qualifier le délit. Changer cela, ce serait mettre les médias à la merci de menaces procédurales, soulignent les éditeurs. Concrètement, une entreprise qui s'estimerait lésée par un article négatif pourrait facilement attaquer un média. Autre inquiétude, le délai de prescription, aujourd'hui de 3 mois. Les sénateurs proposent que sur le web, ce délai ne commence qu'à la fin de la présence en ligne de l'article. Dans les faits, cela pourrait donc être infini, imprescriptible, puisque la plupart des journaux conservent toutes leurs archives en ligne. Une différence de droit entre le papier et le numérique, qui d'ailleurs avait déjà été retoquée en 2004 par le Conseil constitutionnel.
Un mot du temps de ce mardi 4 octobre, gris ce matin mais plutôt ensoleillé au fil de la journée. Les températures maximales seront comprises entre 18 et 22 degrés sur la moitié nord du pays, ainsi que dans le massif central, comptez entre 23 et 29 degrés au sud Guillaume Hernet.